Nous allons ouvrir donc la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse et lire le chapitre 15. Apocalypse chapitre 15. Nous commençons la lecture au verset 1er. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. Sept anges qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant: tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et t'adoreront, parce que tes jugements ont été manifestés. Après cela, je regardais, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Les sept anges qui tenaient les sept fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. L'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges soit accompli. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Dans notre étude de ce livre de l'Apocalypse, nous avons déjà cité la vision de Daniel chapitre 2, dans laquelle le roi Nebuchadnezzar voit une statue composée de quatre parties qui représentaient les quatre empires qui allaient se succéder. Des empires qui allaient perdre en gloire, mais gagner en puissance. La Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce et ensuite Rome. Mais cette vision montre aussi autre chose de bien plus important. Et nous lisons cela en Daniel 2, verset 34. Daniel dit au roi: « Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. » Et cette pierre représente le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Premier mot sur la feuille. Le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Et Daniel annonce qu'au temps du quatrième empire, c'est-à-dire de l'empire romain, ce royaume verra le jour et grandira jusqu'à détruire tous les autres royaumes et tous les empires de ce monde. Et tout au long de ce livre de l'Apocalypse, Jean, l'apôtre, écrit avec cette perspective que les événements annoncés en Daniel, ces événements qui en Daniel allaient prendre place dans les derniers jours, c'est-à-dire dans les jours du dernier empire, ces événements avaient commencé avec la mort, la résurrection et l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. Ce royaume du Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde. Et il ne va cesser de grandir jusqu'à détruire tous les royaumes de la terre. Et Daniel 2, 44 le résume. Et c'est un peu le résumé aussi de l'Apocalypse. Daniel 2, 44. « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et il détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. » Et l'eschatologie, ou les choses de la fin de l'Ancien Testament, est la même, bien sûr, que celle du Nouveau Testament. Simplement, le Nouveau Testament nous donne beaucoup plus de détails. Daniel montre le royaume de Christ qui vient briser les empires de ce monde. Et l'Apocalypse nous le montre avec beaucoup plus de détails. On a déjà vu les sept sceaux, par exemple, qui montrent comment le Seigneur Jésus-Christ retient le mal par des jugements, afin que l'Église ne soit pas détruite. On a eu les sept trompettes qui montrent les jugements partiels du Seigneur Jésus-Christ qui utilise ces jugements pour déclarer sa souveraineté et aussi pour appeler les nations à la repentance avant le jugement final. Et nous arrivons aux sept coupes de la colère de Dieu dans ce chapitre 15 et plus particulièrement aussi dans le chapitre 16. Ces coupes qui décrivent comment Dieu apporte un jugement final, deuxième mot sur la feuille, un jugement sur ceux qui refusent de se repentir. Et il y a une séquence entre les sceaux, les trompettes et les coupes. Il y a la retenue, Dieu retient le mal afin que l'Église ne soit pas détruite. Il avertit, il invite par les trompettes les nations à la repentance. Mais aussi, finalement, il y a la destruction. Il détruit tous ceux qui s'opposent au Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'au jour où le Seigneur Jésus-Christ reviendra et toute opposition sera enlevée de manière éternelle et permanente. Apocalypse 15 commence donc une nouvelle section, la cinquième section dans ce livre, qui couvre les chapitres 15 et 16. Et bien sûr, cela soulève la question, quand est-ce que cela se passe dans l'histoire du monde? Quand est-ce qu'on parle, quand est-ce que ces coupes de la colère de Dieu sont déversées dans l'histoire de ce monde? Et certaines personnes vont essayer de prouver que ces jugements représentés ici par les coupes, parce qu'ils sont décrits comme étant les derniers, verset 1, ils appartiennent à la fin de l'histoire, à la période qui précède immédiatement le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et par exemple, dans un commentaire qui est sorti tout récemment, à la fin de l'année dernière, 2015, l'auteur écrit ceci, la présente, alors il divise l'Apocalypse d'une différente manière, et donc il dit ceci, la présente et dernière section, celle des coupes et des fléaux, laisse entrevoir les modalités d'exécution du jugement divin qui mettra un terme à l'histoire humaine. Il n'est pas le seul à penser que ces jugements, ces coupes représentent quelque chose qui se passe à la fin de l'histoire. Et comme j'ai dit, ces personnes s'appuient sur le verset premier. Nous lisons « Je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, sept anges qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. » Ces personnes disent donc que nous sommes, ceci décrit la fin de l'histoire juste avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais comme vous allez, comme vous vous en doutez, vu notre interprétation du livre de l'Apocalypse, cette interprétation-là n'est pas la bonne. Et pour deux raisons, principalement. La première, c'est que cette section, elle est connectée, elle est liée avec la section précédente. Parce que l'apôtre commence ici au chapitre 15 et au verset 1, « Puis je vis dans le ciel un autre signe. » Quand est-ce qu'il a parlé d'un signe dans le ciel? Il a parlé d'un signe dans le ciel au chapitre 12 et au verset 1er. Donc la quatrième section dans ce livre, « Un grand signe parut dans le ciel. » Dans cette section où l'apôtre, bien sûr, parlant au nom du Seigneur Jésus-Christ, utilise les symboles du dragon, de la femme et de l'enfant, des deux bêtes, description de comment Satan œuvre tout au long de l'histoire humaine, de l'histoire de l'Église, avec des attaques violentes contre l'Église, quand il utilise d'une part les tyrans et d'autre part les faux prophètes. Et donc, parce que notre passage est connecté à cette autre section, cette section précédente, parce que Jean décrit un autre signe dans le ciel, à cause de ce lien, le passage que nous considérons, ce nouveau passage, couvre la même période de l'histoire, à savoir l'histoire entre l'ascension du Seigneur Jésus-Christ et son retour dans la gloire. Puis la deuxième raison, c'est la raison que j'ai citée tout à l'heure. Il y a une relation entre les sept trompettes, chapitre 4 à 7, les sept sceaux, pardon, entre chapitre 4 à 7, les sept trompettes, chapitre 8 et 11, et les sept coupes, chapitre 15 et 16. Il y a une progression qu'on a soulignée il y a quelques instants. Il y a d'abord la retenue, Dieu retient le mal pour préserver l'Église. Ensuite, il avertit, il appelle à la repentance, et ensuite, il détruit. Et quand on parle ici de l'accomplissement de la colère de Dieu, ce n'est pas la fin de l'histoire, non. C'est la manière dont Dieu va traiter avec les puissances qui sont rebelles, mais aussi avec les personnes qui sont rebelles. Après la retenue et l'avertissement, il y a la destruction, troisième mot sur la feuille. Et on voit cela dans l'histoire du monde. Et en quelque sorte, ici, nous avons les dernières plaies qui viennent compléter les avertissements de Dieu envers un monde qui est incrédule. Et ces choses donc, nous montrent ce qui se passe à la fois aux nations, mais aussi aux personnes, quand les personnes et les nations ignorent les avertissements de Dieu. Le commentateur le dit ceci, il dit « Quand le pécheur, plusieurs fois averti par les trompettes du jugement, persiste dans son endurcissement, la mort le jette finalement dans les mains d'un Dieu en colère. » Et c'est dans ce sens que cela est l'accomplissement de la colère de Dieu. Et cela se voit tout au long de l'histoire de ce monde et de l'histoire de l'Église, quand des personnes, des nations se lèvent contre Dieu. S'il n'y a pas de repentance, il y a un moment où la destruction arrive. Mais le premier point donc, que nous voulons souligner ce matin, c'est la mer de verre. Cette vision commence donc avec cette scène extraordinaire. Et je vis, verset 2, comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Tout d'abord, cette mer de verre, elle est au ciel. Nous avons déjà vu cela au chapitre 4. Chapitre 4, verset 6, il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Elle est au ciel, elle est devant Dieu qui est souverain, devant Dieu qui est le seul Dieu vivant. Et Jean dit, les croyants, les saints, ceux qui sont morts, se tiennent sur cette mer de verre. Cela souligne que les croyants qui meurent aujourd'hui sont au ciel. Les croyants, quatrième mot sur la feuille, sont au ciel. Ils ont traversé les épreuves de cette vie et ils se tiennent maintenant là où tout est parfait. Ils se tiennent dans la présence même de Dieu. Mais cette mer, deuxièmement, elle parle aussi de la victoire de Dieu. La mer, l'imagerie de la mer dans la parole de Dieu, et en particulier dans l'Apocalypse, est utilisée pour décrire le chaos, les puissances de la rébellion qui font rage dans ce monde, qui font rage contre Dieu. Une mer qui est déchaînée, qui ne se repose pas. On a vu en Apocalypse 13, le dragon se tient sur le sable de la mer pour appeler hors du royaume du chaos la première bête. Mais ici, au ciel, Dieu a complètement vaincu toute opposition, cinquième mot sur la feuille. Il a vaincu. Pourquoi ? Parce que la mer n'est plus déchaînée. Il n'y a plus de vagues. La mer est une mer de verre. Dieu a vaincu le mal et le péché pour toujours. Cette mer de verre, décrite aussi comme ressemblant, semblable à du cristal, est une vision glorieuse de la victoire de Dieu, la victoire souveraine de Dieu, de son triomphe en Christ sur le mal et sur le péché. Et bien sûr, ce passage est très clair aussi dans les images qu'il utilise et qui nous renvoient à l'Exode. Et cela doit nous rappeler la traversée de la mer Rouge. Mais ici, Ce n'est pas une mer qui a été coupée de manière temporaire pour permettre le passage du peuple de Dieu. Non, c'est une mer qui a été mise sous le règne permanent de Dieu. Et l'Église se tient sur cette mer. Cette mer nous rappelle la rédemption du peuple de Dieu par le sang du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'agneau qui a vaincu. L'adversaire, Satan, sera un jour jeté au feu. Et à cause de la victoire de l'agneau, le peuple de Dieu se tient sur cette mer. Le peuple de Dieu aura sa victoire sur le monde et il se tiendra sur cette mer. D'où l'image que cette mer est aussi mêlée de feu. Mais cette mer aussi, nous voyons un troisième point au sujet de cette mer de verre, nous voyons l'occupation du peuple de Dieu quand il se tient sur cette mer. Les saints qui sont dans le ciel, les croyants, louent Dieu, sixième mot sur la feuille. Ils louent Dieu alors qu'ils se tiennent sur cette mer. C'est l'activité de chaque croyant. Et nous avons ici, encore une fois, la définition du croyant. Verset 2, « Ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom. » Nous avons déjà dit, mais dans le livre de l'Apocalypse, comme partout ailleurs dans la parole de Dieu, il n'y a que deux catégories de personnes. Ceux qui ont la marque de la bête, ceux qui se soumettent au système de ce monde et de son idolâtrie, et ceux qui rejettent ce système parce qu'ils portent la marque de Christ. La bête, nous avons déjà dit, fait référence aux puissances tyranniques de ce monde qui s'opposent à Christ. Du temps de Jean, bien sûr, cela a été représenté par l'empereur Domitien. Si nous étions des croyants du premier siècle, lorsque nous entendant la lecture de ce livre, en entendant parler de la bête, nous penserions tout de suite à Domitien. Mais c'est une réalité qui se renouvelle et qui se répète tout au long de l'histoire, de tous ceux qui s'opposent, de tous les tyrans qui s'opposent à Christ et qui cherchent à détruire l'Église. L'image de la bête représente ce désir d'être glorifié comme Dieu. Domitien, encore une fois, avait fait ériger des statues à son effigie dans toute la province d'Asie. Et il exigeait qu'on l'adore. Et le nombre de son nom fait référence à ce système pervers de l'idolâtrie qui est centré sur l'homme. Ce n'est pas 777, non, c'est 666. C'est une imposture, c'est moins que Dieu. Et nous voyons le peuple de Dieu qui a vaincu la bête et son image et son ombre. Et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu. Encore une fois, cela nous renvoie à Exode chapitre 15. Après la traversée de la mer Rouge, Exode 15, verset 2, « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. » D'autres traductions disent « Il est devenu mon salut. » Mais sur cette mer de verre, nous lisons que ce même cantique est aussi connu comme le cantique de l'agneau. Et cela nous montre, cela souligne que la délivrance du pays d'Égypte est une image de ce que Christ a accompli pour son peuple. Septième mot sur la feuille. C'est une image de ce que Christ a accompli. C'est une délivrance par la puissance de Dieu, de l'esclavage du péché, traversée de la mer Rouge pour arriver dans le pays de la promesse. Une image de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est le même cantique. Et quand on tourne vers Luc, par exemple, l'évangile de Luc, chapitre 9, la transfiguration, Moïse et Élie sont apparus auprès du Seigneur Jésus-Christ et quand Moïse et Élie s'entretiennent avec le Seigneur Jésus-Christ, ils parlent de son départ, en grec, de son exode. Ils parlent de son exode. Et encore une fois, cela rappelle, cela souligne que le Seigneur Jésus-Christ est véritablement l'agneau pascal, l'agneau qui est mis à mort, qui a racheté son peuple par son sang, qui a libéré son peuple pour qu'il le serve et qu'il l'adore, libre de tout esclavage. Beaucoup de croyants, surtout au premier siècle, même si aujourd'hui cela est encore la réalité dans certains pays. Mais du temps de l'apôtre Jean, beaucoup de croyants sont arrivés au ciel par une mort violente, une mort cruelle. Comment peut-on les décrire alors comme étant ceux qui ont vaincu, alors qu'ils ont été méprisés, qu'ils ont été battus, qu'ils ont été privés de leurs droits, qu'ils ont été mis à mort? La réponse, nous l'avons déjà vue au chapitre 12 et au verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Les croyants sont vainqueurs à cause du Seigneur Jésus-Christ. À cause du Seigneur Jésus-Christ. Et en s'agrippant à Christ, ils sont vainqueurs. L'adversaire, Satan lui-même, cherche non seulement à détruire, à tuer les personnes, mais il veut aussi les amener à avoir peur de l'Évangile. Il veut amener les gens à ne pas s'agripper à Christ. Pourtant, le Seigneur Jésus-Christ est le seul agneau qui a fait l'expiation pour nos péchés. Et le coût de rester fidèle à Christ, surtout à l'époque de Jean, c'était la mort. Mais cette vision est une autre preuve que l'Église du Nouveau Testament est liée avec l'Israël de l'Ancien Testament. Et c'est triste aujourd'hui dans beaucoup de milieux que beaucoup de personnes pensent qu'Israël et l'Église ont deux destinées différentes. Mais l'Apocalypse est claire. Le cantique de Moïse est aussi connu comme le cantique de l'agneau. Le passage de la mer Rouge est une image pour le peuple de Dieu de son passage sur la mer de verre. En Christ, nous connaissons la victoire de l'Exode. Christ est véritablement l'agneau pascal qui, par sa mort sur la croix, à libérer son peuple. En lisant ce passage, certaines personnes vont être troublées. Ils vont dire, mais il semble que les croyants au ciel se réjouissent au sujet du jugement de leurs ennemis. Et la réponse est que c'est vrai. Et donc ces personnes vont dire, mais est-ce que nous ne sommes pas appelés à aimer nos ennemis? La réponse, bien sûr, est oui. Nous sommes appelés à aimer nos ennemis. Mais nous devons aussi réaliser ce qui se passe dans ce monde. Il y a des véritables ennemis de la croix, des ennemis du Seigneur Jésus-Christ, des puissances qui veulent détruire l'Église. Et l'Église et les croyants sont gardés par les jugements que Dieu fait tomber sur ses ennemis. Rappelez-vous, la mer Rouge qui a permis aux Israélites de traverser et d'être en sécurité de l'autre côté. Cette même mer Rouge est retombée sur les ennemis, sur Pharaon, et a détruit les armées de Pharaon. Et donc sur cette mer de verre au ciel, les saints glorifient, louent Dieu pour sa puissance dans sa justice, parce qu'il les a sauvés. Il les a sauvés de la destruction. Il les a sauvés de l'esclavage. Il les a délivrés. Apocalypse 15, donc, commence avec cette belle image des croyants au ciel sur la mer de verre. Mais à cela se rajoute une deuxième chose. Deuxième point, donc. Et là, nous allons aux versets 5 et suivants. Et nous voyons le sanctuaire de Dieu qui est ouvert. C'est la face, l'autre face de la pièce. Nous avons d'un côté, donc, les croyants qui sont sur la mer de verre, qui sont victorieux. qui loue Dieu pour sa victoire, sa délivrance. Et ils le sont à cause des actes d'un Dieu qui est saint, d'un Dieu qui règne depuis son sanctuaire qui est dans les cieux. Le sanctuaire ici est appelé le temple du tabernacle du témoignage. Et il s'agit, rappelez-vous, de la réalité. Quand Dieu a donné les plans à Moïse pour construire le tabernacle dans le désert, ce tabernacle n'était qu'une représentation de la réalité qui est au ciel. Et ceci connecte la victoire du peuple de Dieu avec la présence d'un Dieu souverain et tout-puissant au milieu de son peuple. L'ouverture de ce tabernacle révèle la présence de Dieu, huitième mot sur la feuille, la présence de Dieu, sa puissance et sa fidélité à son alliance. Dans l'Apocalypse, le terme « temple » que l'on a ici et que l'on retrouve ailleurs veut souvent décrire le Saint des Saints, le lieu très saint, ce lieu fermé où seul le souverain sacrificateur pouvait entrer et pas n'importe comment, une seule fois par an et avec le sang de la victime qui a été sacrifiée. Alors, qu'est-ce que Jean veut dire au verset 5 quand il parle du temple, du tabernacle, du témoignage? Il y a deux choses. D'abord, ce temple abrite les exigences de Dieu, la loi de Dieu. Qu'est-ce qu'il y avait dans le temple? Et qu'est-ce qu'il y avait dans le lieu très saint? Il y a l'arche de l'Alliance. Qu'est-ce qu'il y a dans l'arche de l'Alliance? Il y a les deux tables de la loi. Et c'est là ce qui est à l'origine de l'envoi des fléaux sur ce monde. Dieu est saint, Dieu est pur, il est parfait, il exige la sainteté, il punit le péché. Il ne peut pas tolérer le mal. Mais dans le temple, il y a aussi, le temple parle aussi de la miséricorde de Dieu. Encore une fois, sur l'arche de l'Alliance, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le propitiatoire. Là où le sang des sacrifices était versé, où Dieu faisait miséricorde. Et cela, encore une fois, pointe vers le Seigneur Jésus-Christ. Ce tabernacle du témoignage déclare le jugement de punition à cause de la colère sainte de Dieu sur la désobéissance de l'homme, mais aussi un jugement de défense pour délivrer, pour garder son peuple, pour le délivrer des pharaons de ce monde qui veulent détruire l'Église. Et on peut très bien voir à ce moment-là le réconfort, neuvième mot sur la feuille, le réconfort que cela apporte à l'Église, non seulement à l'Église du premier siècle, mais à l'Église de tous les siècles. Aucun pharaon, aucun Domitien ne peut continuer avec succès dans la désobéissance à la loi de Dieu et dans la persécution de l'Église sans un jour recevoir la colère de Dieu et le jugement de Dieu. Aucun roi, aucun pharaon ne peut continuer sans un jour connaître le jugement terrible de Dieu. C'est un réconfort pour les croyants du temps de Jean, mais c'est un réconfort pour nous aujourd'hui. Nous vivons dans un monde qui persécute l'Église à de différentes manières. Et c'est la description de l'Apocalypse, que l'Église sera persécutée tout au long de l'histoire. Mais Dieu est au ciel, il est souverain, et il punira ses ennemis. Ce qui est réellement important, souligne cette vision, ce qui est réellement important, ce n'est pas ce qui change, c'est ce qui ne change jamais. Le caractère de Dieu, ses desseins dans l'Alliance, sa capacité, sa détermination à accomplir tout ce qu'il a promis, et en particulier d'être le Dieu de son peuple et le sauveur de son peuple. Ça ne change pas. Tout le reste change. Aujourd'hui, on a des hommes qui s'approprient le droit de modifier la définition du mariage ou la définition du genre humain. Et tout ça, c'est du vent, parce que les règles ne changent pas. Dieu est celui qui définit ce qu'il a créé. Et c'est lui qui définit ce qui est bien, ce qui est mal. C'est lui qui ordonne la société humaine. Et lui, il ne change pas. Et le temple s'ouvre. Et c'est la colère qui vient et qui tombe sur les ennemis de Dieu. La volonté de Dieu sera réalisée. Et sa fidélité à son alliance, sa miséricorde pour son peuple, aidera ce peuple, aidera le peuple de Dieu à supporter la difficulté, à supporter la persécution. On le voit dans l'histoire, on le voit dans l'Apocalypse. L'Église persévère. Comment ? En tenant ferme au Seigneur Jésus-Christ, en s'appuyant sur le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, beaucoup qui se disent évangéliques ont une crainte du monde. Ils essayent de modifier ou ils modifient leur enseignement pour justement essayer d'éviter la persécution, pour ne pas être en désaccord avec ce monde. On va modifier notre style d'adoration, notre manière de vivre, mais ce n'est pas cela à laquelle nous sommes appelés. Non, nous devons honorer Dieu et lui seul, mettre en lui notre confiance, savoir qu'il pourvoit à tous nos besoins et qu'il va aussi punir le péché, délivrer son peuple et amener chacun de ses enfants à se tenir un jour sur cette mer de verre, dans le ciel, dans sa présence, pour chanter ses louanges et chanter les louanges du Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas quelque chose qui se passera uniquement à la fin des temps, comme nous l'avons déjà dit. Cela se voit tout au long de l'histoire. Et un exemple assez frappant, c'est le contraste entre l'Angleterre et la France. Je sais qu'il y a des personnes beaucoup plus capables que moi en histoire parmi nous. Mais pour résumer, si on retourne au XIVe siècle ou même avant, on a deux royaumes qui étaient aussi terribles les uns que les autres, l'un que l'autre, pardon. En Angleterre, on avait ce qui est connu comme l'Empire Plantagenet, Henri III, Édouard Ier, Édouard II, Édouard III. Un empire qui était avide de combats, qui était un sanguinaire. En France, on avait les Bourbons. Et il y a ces conflits continuels entre les dieux. Mais d'une certaine manière, Dieu va les garder, les retenir, pour qu'ils soient limités dans le mal qu'ils allaient faire. Dieu va envoyer un jugement sur le continent européen pour avertir au XIVe siècle, il y a la peste noire. Qu'on appelle aussi la mort noire, qui a décimé plus d'un tiers de la population en Europe. Dieu avertit, il appelle à la repentance. Et c'est assez intéressant que les arts de cette époque décrivent la peste noire avec les termes d'Apocalypse 15. C'est un fléau que Dieu envoie, un fléau de la colère de Dieu qui s'abat sur les rois. Les rois de France, d'Angleterre, mais aussi des autres pays européens. Cela n'a pas eu de réponse. Dieu va alors envoyer l'Évangile à ces deux royaumes. En France, en Angleterre, nous avons John Wycliffe et d'autres, ils sont mis à mort. En France, nous avons des premiers mouvements avec Pierre Valdo à Lyon, ou Vaudès, le mouvement vaudois. D'autres mouvements, ils connaissent la persécution dans les deux pays. Puis il y a la réforme au XVIe siècle, la vérité de l'Évangile qui vient, qui résonne à travers toute l'Europe, qui annonce à la fois le salut en Jésus-Christ, mais aussi le jugement. Et encore, l'Évangile doit faire face à l'opposition dans les deux pays. En France, des hommes comme Calvin sont obligés de se réfugier en Suisse. Et de là, il envoie des hommes pour revenir en France. Dans la dédicace de son institution de la religion chrétienne, il s'adresse au roi de France et il exhorte le roi à lire le livre de la Bible pour entendre la bonne nouvelle et pour permettre que cette bonne nouvelle soit répandue dans son pays natal, à savoir donc la France. Calvin a envoyé des hommes en France, beaucoup ont été tués. Et le lieu où Calvin enseignait était aussi surnommé l'école de la mort de Jean Calvin. Parce que beaucoup d'hommes partaient et étaient mis à mort. Mais en Angleterre, l'évangile a aussi rencontré l'opposition. Marie Ière ou Marie Tudor, Marie la Sanglante, comme elle est connue, a envoyé au bûcher des prédicateurs de l'évangile. Mais Dieu, dans sa grâce, a touché le pays, et ce pays a renoncé au catholicisme romain, et s'est tourné vers l'évangile, et a établi la réforme dans le pays. Il y a eu au XVIIe siècle le mouvement des puritains, il y a eu des mouvements jusqu'au sein même du Parlement. Le pays a été transformé par l'évangile. Pendant ce temps, la France, elle, a continué à s'opposer à l'évangile. En 1685, l'édit de Nantes est révoqué. Par Louis XIV, les Huguenots ont été massacrés. Certains ont pu fuir dans le nord de l'Europe. Certains ont fui en Angleterre. D'autres sont allés jusqu'en Afrique du Sud, voire même en Amérique. Dans cette période de l'histoire, l'Angleterre a eu ses hauts et ses bas. La révolution industrielle a commencé, mais le pays a aussi perdu ses colonies. Dieu, pendant ce temps-là, a maintenu la monarchie dans ce pays. Le pays n'a pas été couvert de sang comme la France l'a été lors de la Révolution. La monarchie française, elle, a été détruite, non seulement par la Révolution, par les hommes comme Danton ou Robespierre, mais elle a été détruite par la main de Dieu. Dieu a apporté son jugement. La noblesse a été tuée. Et Dieu jugera et il punira tous ceux qui refusent son évangile, tous ceux qui refusent de venir à lui dans la repentance et la foi. Mais ça, c'est qu'un exemple dans l'histoire, qu'un contraste. On pourrait prendre d'autres images dans l'histoire de notre pays, de notre monde. Verset 7, nous lisons « L'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. » Ces anges sortent donc du tabernacle avec les sept fléaux. Ils sont habillés comme des serviteurs qui reflètent la gloire de Dieu, qui reflètent la sainteté de Dieu. Ils avancent en manifestant le caractère de Dieu, sa gloire et sa pureté. Verset 5, ils sont revêtus d'un lin pur, ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et ce verset 7 souligne le caractère éternel de Dieu. C'est ce qui garantit, le 11e mot sur la feuille, c'est ce qui garantit que le mal sera jugé, que le peuple de Dieu ne succombera pas. Notre monde aujourd'hui, tout au long de son histoire, a affirmé qu'il pouvait rejeter Dieu. Notre monde essaye de réécrire des livres d'histoire sans tenir compte de Dieu. Notre monde essaye d'enseigner aux jeunes que tout est là par hasard. Mais tout cela ne pourra jamais enlever le fait que Dieu est éternel, que Dieu vit éternellement, qu'il est sur son trône et qu'il règne, et qu'il est déterminé à juger le mal et à protéger son peuple et à protéger son évangile. Ces choses vont arriver parce que Dieu ne change pas. Il est éternel. Toutes les nations, que ce soit la France, l'Angleterre, les États-Unis, la Chine, le Bénin, le Togo, soit elles seront amenées à la repentance devant Dieu, soit après les jugements d'avertissement, les jugements partiels, elles seront jugées et punies parce que Dieu est éternel. Il jugera ceux qui désobéissent à sa loi. Et il gardera son épouse. Il gardera l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Il le gardera pour les jours, le jour des noces. Donc, ces anges qui sortent de la présence de ce Dieu éternel Ils sortent de l'endroit où sont gardées la loi et la fidélité de Dieu à son alliance. Ces gens montrent que personne, ni aucune nation, ne peut défier la loi de Dieu sans un jour subir les conséquences de sa colère. L'ouverture de ce temple, l'apparition des anges portant les coupes de la colère de Dieu montrent que Dieu tient toute la création responsable, 12e mot sur la feuille, responsable devant sa volonté, cette volonté qu'il a révélée dans sa parole. Le commentateur dit ceci, « La mise en avant du caractère éternel de Dieu est un rappel que même si le mal semble dominer l'histoire de l'homme, Dieu est éternel et ses desseins ne peuvent être frustrés, même pas par Satan. » Et le verset 8 conclut ce chapitre en affirmant que le temple était si rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu que personne ne put entrer dans le temple avant que les sept fléaux ne soient accomplis. Cela nous renvoie encore une fois à l'Ancien Testament, Exode 40, verset 34, parle de la gloire de Dieu qui remplit le tabernacle. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. On a la même chose en 1 Roi chapitre 8, Exode 40 c'était. Et ici en Apocalypse 15, en disant que la nuée de gloire remplissait le temple jusqu'à l'accomplissement des sept fléaux. Jean veut souligner qu'il y a un temps où il n'y a plus de médiation. 13e mot sur la feuille. Il n'y a plus de médiation. Il parle de ceux qui ont tellement rejeté Dieu, que ce soit des individus ou des nations, qui ont tellement rejeté ces avertissements, qui n'ont pas entendu, qui n'ont pas écouté ces avertissements et ces appels à la repentance, qu'il arrive un moment où il n'y a plus de médiation. Le rejet de Christ ne conduit qu'à l'application complète des fléaux contenus dans les coupes de la colère de Dieu. Comme Pharaon s'est endurci contre Dieu, a été jugé et détruit. Il en est de même pour toute nation, toute personne qui rejette, qui se rebelle contre le seul vrai Dieu et contre le seul médiateur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un jour où il n'y a plus de médiation, où cela n'est plus possible. On a vu le début de ce chapitre et on vient de voir la fin de ce chapitre, qui est, on pourrait dire, un message adressé au monde. Les croyants ne sont pas vaincus. Même s'ils sont mis à mort, ils vont auprès du Seigneur Jésus. Ils vont se tenir dans la gloire, sur cette mer de verre, et adorer Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu est éternel, parce que Dieu ne change pas, ses desseins ne changent pas non plus. Voilà le message qui est adressé à ce monde. Les croyants, même s'ils apparaissent comme étant les perdants, sont en fait les grands vainqueurs à cause de Christ. Et au milieu de ce chapitre, il y a le message qui est adressé pour l'Église. Ce merveilleux cantique de louange, et c'est le troisième point. Troisième point, cantique de louange, nous allons voir sous forme d'application. Quatre applications. La première, au verset 3. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tes voix sont justes et véritables, Roi des nations. » Les croyants qui sont au ciel sont concernés, 14e mot sur la feuille. Ils sont concernés non pas par ce qui se passe sur cette terre, mais par la gloire de Dieu. Et l'histoire que l'on vit n'est pas au sujet de choses qui vont mal ou des choses extraordinaires qui peuvent se passer dans ce monde. Non, l'histoire, ce sont les choses que Dieu fait. Ce sont les œuvres de Dieu. L'histoire, avec tous les événements que nous, nous pouvons connaître, l'histoire, en fait, n'est que la scène sur laquelle Dieu manifeste sa puissance. La scène sur laquelle Dieu va manifester sa fidélité à son alliance. Il va séparer les eaux de la mer Rouge et il va faire passer son peuple. Tout au long de l'histoire, Dieu sauve son peuple. Et quand nous faisons face à des moments difficiles, à des circonstances difficiles, nous devons regarder en haut et nous dire, oui, nous savons que Dieu va juger le mal. Nous savons que Dieu va sauver son peuple. Nous savons qu'il va être fidèle à toutes les promesses qu'il a faites dans son alliance. Et maintenant, dans nos circonstances, nous voulons le voir. Nous voulons voir comment il va faire, comment il va sauver son peuple, comment il va tenir ses promesses. Nous savons qu'il est souverain. Nous savons qu'il est tout-puissant, qu'il est juste dans tout ce qu'il fait. Il fait toutes choses de manière juste et il accomplit tout ce qu'il a promis. Et quand nous sommes dans une situation difficile, regardons en haut et attendons-nous à voir comment il va accomplir sa promesse. Dans la présence de Dieu, dit un commentateur, les martyrs s'oublient. Leurs pensées sont prises par les nouvelles merveilles qui les entourent. La gloire de Dieu, le dessein de Dieu sont ouverts devant leurs yeux. Ils commencent à voir la finalité de l'histoire de ce monde. Et nous entendons la première doxologie en réponse à cette vision. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Si nous sommes à Christ, le jour où nous entrerons dans la gloire, nous verrons toute l'histoire de ce monde. Mais nous ne parlons pas de choses terribles qu'ont faites certaines personnes, ni de la puissance des médias ou de la télévision dans l'immoralité, non. Nous oublierons tout cela. Nous serons pris par la gloire de Dieu et par la louange de notre Dieu. Et si nous serons préoccupés par cela au ciel, nous pouvons déjà suivre cet exemple sur terre et louer Dieu, être davantage pris dans cet émerveillement de la gloire, de la grâce de Dieu qu'il a daigné venir dans ce monde en son Fils pour sauver un peuple. Les croyants, les saints sont concernés par la gloire de Dieu. La deuxième application, c'est que ce chant nous exhorte non pas à craindre Domitien, l'empereur, ou Pharaon, ou les puissances impies de ce monde, non, mais à craindre Dieu. 15e mot sur la feuille. Verset 4, qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Seul tu es saint. Et au verset 3, Jean a décrit le Seigneur a décrit Dieu comme étant le roi des nations. C'est intéressant de voir dans le Nouveau Testament comment l'Église primitive a agi. Elle n'a pas agi comme beaucoup d'évangéliques font aujourd'hui, en demandant aux autorités ce qu'elles ont le droit de faire, comment adapter leur enseignement ou leur adoration pour être plus proche du monde, pour être davantage accepté par ce monde. Dans le livre des Actes, par exemple, quand on lit que Hérode a arrêté l'apôtre Pierre, les autres disciples ne sont pas allés voir Pierre pour qu'il change sa théologie et pour que Hérode, finalement, puisse le libérer. Non, qu'est-ce qu'on fait, les autres disciples? Ils se sont retrouvés pour prier. Ils se sont retrouvés pour prier. Ils n'ont pas cherché à compromettre avec Hérode, à négocier avec le monde. Ils ont prié. Aujourd'hui, nous avons une société qui s'écroule. Dans d'autres endroits, c'est le sang des croyants qui coule. Et trop souvent, l'Église, au sens général, ne prie pas. Et apparemment, il y a même certaines églises qui n'ont pas de réunion consacrée à la prière. Ou alors, ce n'est qu'une partie de l'assemblée qui se retrouve Nous devons craindre Dieu plutôt que les hommes. Mais acte 12, ce passage parlant de l'emprisonnement de Pierre, nous montre aussi ce qui est souvent le problème. C'est que parfois nous pensons que Dieu ne peut pas agir. Et nous ne voyons pas que Dieu règne sur toutes choses et qu'il est capable de faire même au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Rappelez-vous la réaction des disciples quand Pierre est venu et qu'il a frappé à la porte. Ils étaient incrédules. Et souvent, nous le sommes aussi. Nous avons besoin que Dieu nous donne un esprit de prière, de réaliser l'importance de la prière, l'importance de le craindre plutôt que de craindre les hommes. Toi seul, tu es saint. La troisième application, c'est que nous avons un service à accomplir dans le royaume de Christ. C'est la proclamation de l'Évangile, 16e mot sur la feuille. Au début du message, nous avons parlé de Daniel chapitre 2, la vision de ce royaume du Seigneur Jésus-Christ qui va venir détruire les royaumes de ce monde, le royaume de Christ qui est venu dans ce monde et qui avance par sa parole. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire, proclamer la parole de Dieu, faire connaître ce merveilleux évangile, ce merveilleux message de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Paul écrit par exemple en 1 Corinthiens 15, les versets 24 et suivants, il dit ceci, « Ensuite viendra la fin quand Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. » Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Et Paul dit ceci, quand le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, cela a garanti la résurrection de tout son peuple. Jésus est allé monter au ciel pour régner sur la terre et au ciel. Et l'histoire ne consiste pas en ce que nous rapportent les journaux, non, l'histoire... C'est Christ qui règne par sa parole. Il est en train de vaincre ses ennemis. Il rassemble son peuple. Et le jour vient où tout son peuple sera rassemblé. Et comme Paul le dit, alors vient le jugement final. Et Jésus présentera son royaume à son Père. Le royaume avance par la prédication de la parole, par l'annonce de la parole. Et notre tâche dans le royaume de Dieu est l'annonce de l'Évangile. Verset 4 dit « Toutes les nations viendront et t'adoreront parce que tes jugements ont été manifestés. » Et nous savons que cet Évangile va aller par tout le monde. Et Dieu nous a fait cette grâce ici d'être impliqués, chacun à son niveau, dans la proclamation de la parole en francophonie et en Afrique de l'Ouest. Chacun à son niveau. Et nous savons que Dieu rassemble son peuple de toute nation, de toute tribu, de toute langue. Et son peuple l'adorera pour l'éternité. Mais cette proclamation de l'Évangile est l'œuvre de chaque génération de l'Église. Nous sommes appelés à proclamer, à faire connaître cette merveilleuse nouvelle à ce monde. Et la quatrième application, c'est que nous devons réaliser que le but de notre salut est pour la louange de Dieu. 17e mot sur la feuille. Que se passe-t-il dans l'Église, dans tous les âges de l'Église? Dieu se glorifie en sauvant un peuple. Un peuple qui ne mérite rien. Et il sauve malgré toutes les oppositions. Il fait passer ceux qu'il a choisis par toutes sortes de circonstances, aussi variées, différentes les unes que les autres. Mais il sauve son peuple et il le fait à la louange de son nom. Il le fait pour sa gloire. Nos cœurs devraient se réjouir, même dans des moments difficiles, en réalisant que Dieu se glorifie dans le salut de son peuple. La réalité des croyants au ciel aujourd'hui est notre réalité si nous appartenons à Christ. C'est d'être un jour sur cette mer de verre et de chanter les louanges de notre Dieu. Au ciel, nous verrons comme les croyants, nous verrons la gloire de Dieu, nous verrons la perfection de ses œuvres et nous chanterons la louange de notre Dieu. Ici, sur cette terre, au milieu de nos difficultés, au milieu de la maladie, au milieu de la persécution, nous sommes appelés à le louer par la foi. 18e mot sur la feuille. Appelés à le louer par la foi, en attendant ce jour où notre foi se changera en vue. La raison pour laquelle Dieu sauve son peuple, c'est pour qu'un jour, ou pour que nous chantions ses louanges, que nous commencions à les chanter déjà ici-bas, par la foi, mais qu'un jour, réunis dans sa présence, dans la gloire, nous le chantions avec un zèle encore plus grand, un zèle qui est parfait, et que nous le chantions pour toujours. Voilà l'introduction à cette coupe de la colère de Dieu. Et nous verrons cela plus en détail dans le chapitre 16. Mais que Dieu donc nous aide à comprendre, qu'il nous aide à comprendre sa parole, qu'il nous aide à lever les yeux, et même au milieu de ces jugements, des jugements que Dieu fait tomber sur ce monde, qui nous aide à voir que si nous sommes à Christ, il nous garde. Il nous garde pour ce jour où nous nous tiendrons avec tout le peuple de Dieu devant sa présence glorieuse et où nous chanterons ses louanges, les louanges de son nom, les louanges de sa gloire et de sa grâce, et où nous le ferons pour toujours. Que Dieu donc bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.